Classique 21, you rock.
Radio Caroline. Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Salut, heureux de vous retrouver à bord du cargo de Radio Caroline, où l'on a déployé une grande toile blanche en guise d'écran pour y projeter quelques extraits de films réalisés ou produits par des femmes inspirées et inspirantes, singulières et déterminées, mais aussi des pionnières et souvent au sens propre. L'occasion de retrouver Agnès Varda, Yolande Moreau, mais aussi donc des réalisatrices oubliées, voire invisibilisées, et pourtant de toute grande importance dans l'histoire du cinéma, comme Ida Lupino, une comédienne qui quittera Hollywood pour réaliser dès les années 50 des films inspirés par la vraie vie, par des faits de société, devenant la première cinéaste à parler du viol du point de vue de la victime. Et bien avant elle, il y eut Alice Guy, une cinéaste et productrice, qui débuta en 1896, initiant avant ses collègues masculins l'idée même de fiction sur grand écran. Alice Guy mérite une réhabilitation qui la hisserait en termes de reconnaissance au niveau des autres pionniers du cinéma que furent les frères Lumière ou Georges Méliès. C'est ce qu'affirme la journaliste Véronique Lebris, qui a récemment consacré une biographie à celle que l'on considère comme l'inventrice de la fiction sur grand écran, je le disais, une bio titrée « Alice Guy, la plus audacieuse des pionniers du cinéma ». Inventrice de la fiction, et oui, mais pourquoi donc ? Eh bien, on écoute la journaliste.
Les hommes n'y avaient pas pensé, en fait, c'est surtout ça. Elle y pense, elle se dit que le cinéma sera beaucoup plus puissant s'il raconte des histoires inventées. Donc elle imagine, en fait, complètement l'avenir et ce que va devenir le cinéma, alors que c'était juste une petite secrétaire de 22 ans. Elle demande l'autorisation à Gaumont, qui lui dit « oui, ok, pas de problème, vous pouvez y aller ». Donc elle fait ça en dehors de ses heures de travail, le soir, en fait, il lui alloue une petite terrasse, et elle filme la première fiction de l'histoire de l'humanité, en mars 1896, qui s'appelle « La fée aux choux ». Et pourquoi on est sûr que c'est elle ? Parce qu'il y a évidemment débat pour savoir si c'est elle qui a inventé la fiction. Pourquoi on est sûr que c'est elle qui a inventé la fiction ? Parce qu'une fée, ça n'existe pas.
Et donc, c'est forcément imaginaire. Dans ce court-métrage de 50 secondes, muet et en noir et blanc, cela va sans dire, on voit dans un champ de choux reconstitué, avec du carton notamment, même si c'est très très bien fait, une fée aux cheveux noirs et en robe blanche danser au milieu de ces fameux légumes à large feuille, dont elle sort de vrais bébés que l'on voit gigoter. Et à moins de considérer que les bébés naissent vraiment dans des choux, c'est donc bien une fiction. Un film tourné en 1896 à Belleville, quartier populaire situé dans le nord-est de Paris, où se trouvent également les ateliers de tirage de travaux photographiques de la Gaumont. À l'époque, Alice Guy travaille comme secrétaire pour Léon Gaumont, qui vient de fonder son entreprise de fabrication et de vente de caméras et de projecteurs. En compagnie de Léon Gaumont, Alice Guy a assisté l'année précédente à la projection privée du petit film « La sortie de l'usine Lumière » par Louis Lumière. « Fille d'un éditeur, j'avais beaucoup lu, pas mal retenu et je pensais qu'on pouvait faire mieux », racontera-t-elle dans son autobiographie rééditée dans la collection L'Imaginaire de Gallimard. « Marmant de courage », poursuit Alice Guy, « je proposais timidement à Gaumont d'écrire une ou deux scénettes et de les faire jouer par des amis. » Si on avait prévu le développement que prendrait l'affaire, je n'aurais jamais obtenu son consentement. Ma jeunesse, mon inexpérience, mon sexe, tout conspirait contre moi. Je l'obtins cependant à la condition expresse que cela n'empiéterait pas sur mes fonctions de secrétaire. Et pour préparer ce film, on l'a entendu, mais je cite ici celle qui s'apprête à devenir la première réalisatrice au monde, Léo Gaumont me concéda une terrasse désaffectée, au sol bitumé, couverte d'une verrière branlante et ouvrant sur un terrain vague. C'est dans ce palais que je fis mes premières armes. Pendant que des lumières à Gaumont, en passant par Thomas Edison, la course aux procédés techniques obnubile ces messieurs, Alice Guy, elle, à l'aide d'un drap peint et de quelques costumes, pose les bases du scénario et de la mise en scène, dixit l'historienne du cinéma et du genre Geneviève Cellier. Car si Avant elle, en 1895, les frères Lumière avaient tourné « L'arroseur arrosé », poursuit-elle. Cela s'apparentait à un sketch saisi sur le vif, les deux hommes étant plutôt à l'époque du côté du documentaire filmant le monde autour d'eux. Alice Guy, elle décidera de raconter des histoires, ce qu'elle ne cessera de faire tout au long de sa vie, et notamment lorsqu'elle deviendra directrice de production chez Gaumont, pour qui elle réalisera des centaines de films, comme en 1906, le tout premier péplum de l'histoire du cinéma « La vie du Christ », d'une durée de 34 minutes, et que l'on peut voir d'ailleurs comme certaines de ses œuvres sur le net. Mais surtout, nous rappelle-t-on, Alice Guy a exploré les questions sociales avec une liberté que lui envieraient certaines réalisatrices aujourd'hui. En plus d'être devenue une réalisatrice prolifique dans les années 1900, Alice Guy s'imposera comme productrice. Une patronne puissante, affirme-t-on, en prise avec une époque où l'on commençait à débattre du droit des femmes, où les suffragettes se faisaient entendre en Angleterre. En témoignent ses films « Madame a des envies » ou encore « Les résultats du féminisme », un court-métrage muet de 7 minutes dans lequel les hommes occupent la place des femmes. Tandis que ces dernières grossières fument, prennent du bon temps au café et ont des aventures galantes, les hommes, très efféminés, s'acquittent des tâches ménagères et veillent sur la progéniture. À la fin, tout rentrera dans l'ordre. Cette farce, populaire à sa sortie, témoigne de l'audace de la cinéaste et de son habileté à porter des messages engagés sous le couvert de la comédie. Et cela, c'est dans un autre ouvrage qu'on peut le lire, un coffee table book titré « Le cinéma au féminin » qui vient de paraître chez GM Éditions, qui offre de nombreuses notices et illustrations sur les femmes réalisatrices, mais aussi comédiennes et scénaristes qui se sont imposées dans ce domaine. En 1912, pour en revenir à Alice Guy, désormais installée avec son mari aux États-Unis, où elle a créé sa propre société de production, Solax, elle sera par ailleurs la première cinéaste à réaliser un film avec un casting entièrement noir, « The Fool and His Money ». La même année, elle tourne « The Strike » sur l'antisémitisme, l'immigration et les luttes sociales. Mais entre-temps, Alice Guy a aussi participé aux innovations techniques de cet encore jeune cinéma, tournant bien avant le parlant des films sonores grâce au procédé chronophone développé par Gaumont qui permet de synchroniser l'image et le son. De même, dans « Madame a des envies », elle initie le gros plan subjectif qui remplace et traduit le regard d'un personnage qui montre ce qu'il voit. Mais alors, pourquoi cette femme, à l'époque riche, célèbre et dont le studio aura un temps dominé le cinéma mondial, d'avant Hollywood en tout cas, est-elle si longtemps retombée dans l'oubli? En cause, la faillite de sa société due, entre autres, au mauvais placement de son mari, qui, par ailleurs, en 1919, la quittera pour une actrice et s'installera à Hollywood. Le couple divorcera en 1922, après quoi, très affectée et ruinée, Alice Guy décidera, elle était alors âgée de 50 ans, de rentrer en France avec ses deux enfants, à Nice plus précisément, où sa sœur l'hébergera. Mais jamais elle ne retrouvera un emploi, ni à la Gaumont, ni auprès d'autres sociétés de cinéma. Elle vivra dès lors de traductions et des contes pour enfants qu'elle écrira, tentant en vain bien souvent de récupérer ses films disséminés dans différents pays. Et à quelques exceptions près, les livres dédiés à l'histoire du cinéma l'ignoreront, Léon Gaumont l'évinçant même de ses mémoires, et pire, nombre de ses films étant attribués par la suite à des hommes. Il faudra attendre les années 50 pour qu'enfin les historiens se penchent sur son parcours incroyable et défricheur. Parmi celles qui se sont imposées tôt dans un milieu essentiellement masculin, la réalisation, en tout cas il y a quelques décennies, on ne peut pas ne pas revenir sur le parcours d'Ida Lupino. À l'heure où le mouvement MeToo se cherche des symboles, il est temps de lui attribuer enfin la place qu'elle mérite, écrivait il y a une dizaine d'années Antoine Cyr dans sa formidable somme « Hollywood, la cité des femmes » parue chez Actes Sud. L'auteur poursuivant, Ida Lupino doit être considérée comme une grande cinéaste, mais également comme l'emblème d'une forme de combat féministe à l'écran. Née à Londres en 1918 et débarquant aux États-Unis au milieu des années 30, Ida Lupino sera la seule actrice de la grande époque d'Hollywood à devenir réalisatrice. Ses films sont de remarquables morceaux de musique de chambre traitant de sujets très hardis, d'une façon très claire, presque documentaire, dira d'elle nul autre que Martin Scorsese. issue d'une lignée de saltimbanques remontant à la Renaissance italienne. Ida Lupino grandit donc en Angleterre, où ses parents, comédiens, la font très tôt monter sur les planches. Elle connaîtra quasiment tout Shakespeare. Mais quand la Paramount, qui l'a repérée, l'a fait venir à Los Angeles en 1934, c'est surtout pour lui faire jouer les faire-valoir sexy à la chevelure peroxydée dans des films sans grand intérêt. L'ampleur de son talent n'irradiera l'écran qu'une fois qu'elle aura rejoint la Warner et qu'elle sera filmée par Raoul Walsh, comme par exemple en 1940 dans They Drive By Night, une femme dangereuse.
Where were you last Thursday?
On the road, I guess.
You're lying. You were here in town. One of the boys saw you.
So I was in town.
I waited so long in front of that restaurant they thought I was a picket. Don't you ever keep a date?
I didn't make a date. You did. I told you then I wouldn't be there. And I'm telling you now, I'll never be there.
What's the matter with me?
Nothing. Except you got a husband, Mrs. Carlson. And it happens that he's a good friend of mine. Understand?
Oh, you've been listening to some narrow-minded people.
Grâce à ce film où elle volait la vedette à Humphrey Bogart et à George Raft, Lupino commence à obtenir des rôles plus sophistiqués et à gagner en pouvoir, lige encore. Dans une industrie où les femmes esclaves des studios n'avaient pas voix au chapitre, l'actrice, qui se rebaptise ironiquement la Bette Davis du pauvre, affirme son tempérament rebelle. Elle passe son temps à s'opposer à la Warner et sera suspendue plusieurs fois car refusant certains rôles. Il est en revanche un rôle qu'elle a accepté et qui lui offrira une grande célébrité. Ce sera celui de Marie, la stoïque complice d'Humphrey Bogart, encore une fois, dans High Sierra, la grande évasion de Raoul Walsh en 1941.
A little more coffee?
Yeah. Well, you all packed?
Well, Roy, I thought maybe I could...
I'll run you over to Ballard. You can catch a bus.
I haven't got a soul in L.A.
Where are you from?
San Francisco.
Family there?
Yeah.
Maybe I can stake you to a ticket.
Roy, remember what you were saying the other day about prison? And the way you kept from going crazy by thinking all the time about a crash out?
Uh-huh.
Well, that's the way it's been with me. I've been trying to crash out ever since I can remember. My old man used to get drunk a couple of times a week and kick us around. My old lady used to stand it. But not me. I waited for my chance and I beat it. I crashed out just like you did.
Ida Lupino impressionnera aussi la pellicule de Roadhouse, La femme aux cigarettes, de Jean Negulesco en 1948. Dans l'atmosphère pesante d'une boîte de nuit, théâtre d'un triangle amoureux pervers et meurtrier, l'actrice révèle ses talents de chanteuse à la voix enfumée, lige dans une critique.
Long road.
Good?
She does more without a voice than anybody I've ever heard.
Honey, you are wonderful. Terrific.
Well, you're crazy, you know that?
Come on, give him another one, won't you?
Comédienne, chanteuse, Ida Lupino ne va pas tarder à passer derrière la caméra.
Radio Caroline.
Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Dès 1949, Ida Lupino choisit de s'émanciper d'Hollywood pour fonder avec son mari, Collier Young, la société de production The Filmmakers, une compagnie dont le but sera de produire des films à petit budget certes, mais qui aborderont des sujets de société jusque-là quasi invisibles sur les grands écrans. Des longs-métrages dont Ida sera l'une des scénaristes. Elle a été influencée par Roberto Rossellini, venu après la guerre présenter les films du néoréalisme italien à Hollywood, raconte Antoine Cyr, auteur, je le disais, de Hollywood, La Cité des Femmes. Lors d'une rencontre, il lui a dit « Mais pourquoi vous, les Américains, faites-vous des films aussi aseptisés ? Il n'est pas nécessaire d'imaginer des histoires abracadabrantes. La réalité mérite, elle aussi, d'être montrée. » Retenant la leçon, Ida écrira donc « Avant de t'aimer », l'histoire d'une fille mère obligée d'abandonner son bébé, et elle en confiera la réalisation à Elmer Clifton. Sauf qu'après quelques jours de tournage, ce dernier est victime d'une crise cardiaque et Lupino décidera de le remplacer au pied levé. Le début de sa carrière de réalisatrice qui passera entre 1949 et 1953 par 6 longs métrages, ses réalisations s'attachant à montrer la condition de personnes ordinaires perdues au milieu de l'échelle sociale et soumises à un environnement écrasant. La cinéaste qui aborde la maladie, l'adultère, la rivalité entre une mère et sa fille, mais aussi le viol. Ainsi, avec Outrage, en 1950, Ida Lupino devient la première à traiter la question des violences sexuelles du point de vue de la victime, de la femme, pour en percer les répercussions psychologiques, comme dans cette séquence où, revenant du poste de police avec l'homme qu'elle fréquente, elle clame son refus de l'épouser, d'être désormais touchée par lui, ce qu'il ne comprend pas.
Don't talk like that. We're gonna be married right away. I want you. I want to live with you. I want to have kids with you. We can be happy like other people.
We're not like other people. I don't want to get married ever. I don't want you to touch me. Everything's dirty, filthy and dirty.
Anne, listen. We can live away from here, somewhere else, if that would help.
Sure. You've seen them staring at me, wondering, talking. Yes, we could run, but not far enough.
Shut up!
And you'd always be thinking about what happened. You'd never forget.
Shut up!
Admise en cette même année 1950 au sein de la Directors Guild of America, le syndicat des réalisateurs de cinéma, Ida Lupino est alors la seule femme de l'organisation qui compte plus de 1000 membres. Les assemblées générales commençant dès lors par cette phrase « Gentlemen and Miss Lupino, good morning ». Cela dit, si elle s'est affranchie des contraintes des studios pour gagner sa liberté, les moyens financiers dont elle dispose pour ses tournages sont de ce fait peu élevés. Et la plupart de ses films seront des échecs. Elle n'a pas rencontré son époque, dixit Antoine Cyr. Résultat, en 1955, sa société The Filmmakers jette l'éponge et Ida Lupino réoriente sa carrière vers la télévision, réalisant des dizaines d'épisodes de séries, The Twilight Zone, Ma sorcière bien-aimée, entre autres, et y jouant aussi de temps à autre, comme en 1977, dans un épisode de Charlie's Angels, drôle de dame, face à Farrah Fawcett, elle y incarne une star du cinéma de l'âge d'or d'Hollywood qui semble perdre la raison, à moins qu'elle ne soit victime de manipulation mentale. Mais les Angels, Farrah Fawcett en tête, vont bien sûr mener l'enquête.
My old studio is making an updated version of The Heart of New York. That was one of my most successful pictures.
I remember it.
Of course, this time I'm up for the mother's role.
Ida Lupino mourra en 1995 d'un infarctus à l'âge de 77 ans. Une disparition qui remettra dans la lumière sa carrière de comédienne et de réalisatrice. Au fond, quelle sera la place des femmes en France à la fin des années 50 alors que déferle une vivifiante nouvelle vague qui révolutionne le cinéma, pourfend la société sclérosée et paternaliste et ose enfin représenter la libération des mœurs de la jeune génération. Qu'en est-il vraiment de la femme, de son image mais surtout de la place qu'on lui laisse ? Pour l'historienne du cinéma et du genre Geneviève Sellier, la nouvelle vague sera essentiellement un cinéma au masculin singulier dont les figures féminines qu'il crée oscilleront entre la prise en compte de l'émancipation des femmes réelles et des fantasmes romantiques et misogynes beaucoup plus archaïques. Les femmes sont souvent mystérieuses et fascinantes, ajoute-t-elle, à la fois objets de désir et de méfiance, sinon de peur, qu'il faut souvent écarter pour pouvoir exister, à moins qu'elles ne finissent par détruire le héros volontairement ou non. Mais tout de même, la nouvelle vague accouchera de quelques films dont les femmes seront les principales protagonistes de l'histoire. Sans parler, nous y venons, des femmes qui prendront la caméra, comme Agnès Varda, qui se fera connaître avec Chloé de 5 à 7 en 1962, mais réalisera son premier long-métrage bien avant, avant même la nouvelle vague, en 1954. Ça s'appelle « La pointe courte » et elle s'en souvient ici une dizaine d'années plus tard.
C'est vraiment un film que j'ai écrit sans me rendre compte ni de ce qu'était le cinéma. Enfin, je n'en avais pas d'idée cinématographique, mais j'avais des idées très précises. Alors j'ai écrit très précisément un découpage, des mouvements, des trucs, bon ou mauvais, et j'ai tourné exactement ça. Je l'ai fait un peu, je pense, comme certains jeunes gens font leur premier roman. Et je me disais, j'aimerais faire un film qui soit pas tellement agréable à voir, mais auquel on pense beaucoup après. Ça, c'est une chose précise, en tout cas. C'est bien ce qui est arrivé, d'ailleurs. Ça n'a pas tellement plu, et ça a beaucoup impressionné les gens, et on en a beaucoup parlé, même longtemps après.
Agnès Varda a 26 ans quand, l'été 1954, dans le quartier de pêcheurs nommé La Pointe Courte, à Sète, où elle a d'ailleurs vécu dans sa jeunesse, elle filme un couple formé de Philippe Noiret, 24 ans, et Sylvia Monfort, 30 ans, en plein questionnement sur leur amour.
Tu ne vas quand même pas rester amère jusqu'à la fin de tes jours, parce que pendant 4 ans, nous avons vieilli ensemble.
Et que faire d'autre? Nous avons tout essayé. Tu m'as trompé, j'ai essayé de te tromper. À quoi cela rime-t-il?
Tu sais bien que depuis, je t'aime plus. J'ai appris de façon certaine tout ce que nous avions.
Bravo. Moi, j'ai appris tout ce que nous n'avions plus. Et la pesanteur d'une aventure.
Si tu étais un peu plus légère...
Je serais la plus heureuse des femmes.
Tandis que tu es la plus malheureuse. J'en ai assez. Je suis la douceur même. À part mon travail, je ne pense qu'à ton bonheur.
Cela n'a pas tellement plu, disait Agnès Varda dans l'archive qu'on a entendu il y a quelques instants. C'est le moins qu'on puisse dire, ou en tout cas auprès de certains journalistes. Le fameux critique Jacques Siclier écrira par exemple « Tant de cérébralité chez une jeune femme a quelque chose d'affligeant. Agnès Varda doit être bien séduisante pour qu'on ait défendu La Pointe Courte avec autant de mauvaise foi. » Comment ne pas devenir féministe après ça, écrira Varda dans ses mémoires. C'est donc en 1962, 8 ans après son premier film, qu'Agnès Varda connaîtra une vraie reconnaissance en tant que cinéaste avec Chloé de 5 à 7, l'histoire d'une jeune et belle chanteuse qui attend les résultats d'une analyse médicale et qui, pendant les 90 minutes du film, va faire des rencontres qui lui ouvriront les yeux sur le monde.
C'est donc si grave ?
J'ai vu le cancer. Elle est perdue.
Si c'est ça, je me tuerai.
Encore un truc pour qu'on te dise qu'on t'aime.
C'est elle. C'est vous, mademoiselle. Moi qui aime tant votre voix.
Il me fatigue avec son emploi du temps. J'ai envie de le laisser.
C'est un cri d'amour.
Évidemment, il faudrait un peu de sentiment et je me demande...
Je t'interdis.
Toutes portes ouvertes.
Musique de Michel Legrand qui apparaît d'ailleurs dans le film. En juin 1970, dans le cadre de l'émission de la RTBF Féminin Présent, Agnès Varda est interviewée sur son métier de réalisatrice dans sa fameuse petite cour ensoleillée ce jour-là de la rue Daguerre à Montparnasse.
Moi, je voulais être conservateur de musée, vous voyez. Alors, j'ai fait l'école du Louvre. Donc, j'ai surtout étudié, pas la peinture pour peindre, enfin, étudié les arts, si vous voulez, les arts plastiques, l'architecture, la sculpture. J'ai beaucoup vécu parmi des artisans, des potiers, des sculpteurs, des gens comme ça. Et puis, j'ai beaucoup lu, enfin, j'ai plutôt aussi une formation littéraire comme ça. Et puis, je suis devenue photographe, un peu par hasard aussi, parce que je voulais un métier comme ça. Et puis, de photographe, j'ai eu envie de faire des films, j'ai écrit un scénario, je l'ai fait. Je veux dire que je peux pas dire que, à 18 ans, je voulais pas être cinéaste, je n'allais pas au cinéma et je m'en fichais complètement. Et puis, vers 24 ans, là, j'ai commencé à penser que ce serait intéressant de faire un film. À cette époque-là, c'était ni la nouvelle vague ni rien. Comme ça, je me suis lancée un petit peu comme on écrirait un poème et en se disant, ça va rester dans le tiroir et personne n'en voudra. Enfin, j'essaye, enfin, dans la vie, d'avoir une sorte de liberté par rapport à mes intentions et de ne pas me dire définitivement je fais ça ou ça. Je crois pas que d'être une femme cinéaste, c'est différent que d'être un homme cinéaste. Je veux dire que ce qui est assez formidable, c'est d'être cinéaste. Il faut beaucoup de nerfs, il faut beaucoup de concentration, il faut une obstination, si vous voulez, à voir le film, quoi que ce soit qu'il arrive, à travers les techniciens, à travers les acteurs, à travers les ennuis, les changements de temps, les problèmes, enfin, vous connaissez tous les problèmes du cinéma. Mais enfin, la concentration n'est pas réservée aux hommes, c'est pas... Il n'y a rien, je crois, dans la nature féminine qui l'empêche de faire du cinéma. Il y a simplement que les femmes, dans l'ensemble, n'osent pas faire les choses qu'elles sont capables de faire. Et qu'effectivement, il y en a de plus en plus, mais enfin, il y avait assez peu de filles qui se disaient, moi, je veux faire du cinéma comme metteur en scène. Évidemment, il faut un petit peu une formation, mais enfin, pas plus qu'autre chose. Enfin, c'est pas un métier où la technique est étouffante au niveau de la mise en scène, je veux dire. Il faut être un peu visionnaire. Bon, mais ça, c'est... C'est pas difficile, je veux dire. C'est un... Peut-être c'est un don, peut-être.
Au fait, je ne peux que vous conseiller le livre de photos et de textes tiré de la récente exposition Le Paris d'Agnès Varda, où l'on y raconte ses débuts comme photographe, comme femme libre aussi, et l'histoire de la petite rue d'Aguerre entre sa maison et ses bureaux, cachée en plein quartier de Montparnasse, où j'ai eu le bonheur de la rencontrer il y a une quinzaine d'années pour un documentaire sur Yolande Moreau. Yolande Moreau, elle aussi réalisatrice, mais qui a débuté comme comédienne au cinéma en 1984 dans un court-métrage d'Agnès Varda, après que cette dernière l'avait vue dans son one-man show « Sale affaire du sexe et du crime ».
Elle l'a joué plus ou moins dans les rues ou dans un coin à Avignon, en 1985, je pense, ou 4. Et c'est là que je l'ai vue. J'étais en train de faire un film presque improvisé qui s'appelait « Cette pièce, cuisine, salle de bain à saisir », comme une annonce immobilière.
Elle me dit « Mais viens pour jouer dans un court-métrage. » Je dis « Ah oui, chouette. » Et j'arrive royalement vers midi. J'ai appris qu'il fallait commencer à l'heure au cinéma. Qu'en fait, il y avait des horaires.
Je n'aime pas beaucoup qu'on fume en faisant la cuisine. Vous pourriez fermer votre tablier.
Dis donc, si ça vous plaît pas, je vais vous le rendre, mon tablier.
Oh, ne me faites pas ce coup-là. Mais qu'est-ce que je ferais sans vous, ma bonne Yolande?
Il se trouve que juste l'année d'après, j'ai écrit un film qui s'appelle Saint-Antoine-Illois. Et je lui ai demandé, encore une fois, c'est pas du tout pour l'humilier, mais parce qu'il y avait un rôle de domestique chez une vieille dame riche.
Tu sais, j'ai si souvent pensé à vous deux endormis. Je croyais que c'était l'amour pour toujours. Maintenant, te voilà seule comme cette vieille.
Mon riche, quand même.
Pauvre gosse. Je te gâterai, ça te changera. Tu me tiendras compagnie, je suis tellement seule.
Et ce long métrage, le premier de l'actrice Yolande Moreau, c'est Saint-Antoine-Illois, avec, on l'a brièvement entendu, la jeune Sandrine Bonner. Quant au premier film de Yolande en tant que réalisatrice, ce sera « Quand la mer monte » en 2004, réalisé à l'arrache avec Gilles Porte.
Et on se disait, on a tellement peu d'argent, de toute façon, c'est un peu absurde ce que je veux dire, mais je veux dire, on a tellement peu d'argent qu'on est obligé d'être honnête, mais très honnête, c'est-à-dire pas de concessions, c'est notre seule chance. Et c'est ce qu'on devrait se dire quand on a du pognon aussi, d'ailleurs. Je veux dire, on peut pas, c'est ce qu'on devrait se dire. Et en tout cas, je vais me lancer dans un autre. J'espère que aussi, en me disant chaque fois, pas avoir accès à la facilité ou des choses comme ça.
Eh bien voilà notre voyage à travers les vagues du cinéma féminin pionnier, bien souvent, se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, apprécié, n'hésitez pas à le faire connaître et à le partager, voire à l'étoiler. Belle journée ou bonne nuit.
Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.